Bonjour à tous. Vous allez bien? Moi aussi. Vous savez, je dis toujours moi aussi, parce que c'était dans un film, ça. C'était une dame qui voulait faire croire qu'elle était très distinguée. Et qui dit, quand on lui demandait, quand elle disait, comment allez-vous? Très bien, vous? Moi aussi. Ça, c'est drôle. C'était une liaison mal à propos. Hein, voilà. On va faire une lecture dans Matthieu 24, 6-8. Je crois que le film, ça s'appelait Victor et Victoria. C'est très joli. C'est avec Julian Jones. C'est très joli. Une histoire vraie, un peu romancée, mais voilà, c'est un vieux film. Matthieu 24, 6-8. Vous y êtes? C'est Jésus qui parle et qui dit, vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car ça doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Dans divers lieux, il y aura des famines, des tremblements de terre, mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'accouchement. Amen. Seigneur, veuillez bénir ces paroles que je vais dire ce matin, afin que cela donne du courage à mes frères et sœurs qui m'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Alors, des guerres, il y en a toujours eu, depuis 2000 ans que Jésus a dit ça, mais nous sommes la seule génération qui entend parler de guerre et de bruit de guerre. Avant, on n'entendait pas, ou alors on entendait, c'était déjà fini. Maintenant, deux secondes après que quelque chose, qu'une bombe ait éclaté quelque part, on le sait par Internet, on le sait par la télé, on le sait par la radio. On entend parler de guerre et de bruit de guerre. Faire attention aux mots que Jésus emploie. Il ne dit pas « il y aura des guerres ». Non, il dit « vous entendrez parler ». Alors, c'est le fait que nous entendions parler de guerre et de bruit de guerre qui nous montre que Jésus parle de notre époque. Il n'y a eu aucune époque comme celle-là. Vous êtes bien d'accord avec moi? Lorsqu'on s'alarme face à ce qui se produit dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend coupable de négligence envers nous-mêmes. Notre intellect, il se met à produire de nombreuses et de funestes croyances. On se fait des peurs, encore plus que les peurs normales qu'on essaye de nous infliger, on devient comme une terre qui est en friche. Vous avez vu la photo que j'ai mise sur Révélation Bible, c'est une terrasse, un jardin qui est laissé à l'abandon, et puis ensuite la même, mais qui est arrangée, tout est cultivé, c'est différent. Voilà, notre vie, elle peut être en friche, ou alors elle peut être cultivée, arrangée, fleurie, belle. Si vous laissez votre terre en friche, eh bien, il va vous falloir beaucoup de temps pour la nettoyer afin que votre intelligence puisse être à même de recevoir à nouveau la parole de vérité, c'est-à-dire la parole de Jésus, la parole de Dieu. La parole de vérité, c'est-à-dire la bonne semence. Alors, ne l'étouffez pas, cette bonne semence, sous des préoccupations mauvaises et ingérables. Vous ne pouvez pas gérer ce qui se passe en ce moment. Vous pouvez prier, ça c'est sûr. Mais si vous vous inquiétez, vos prières, elles ne dépassent pas le plafond. Dieu cherche la foi. Si vous laissez la bonne semence être étouffée par des semences de ce monde démoniaque, parce qu'il faut bien dire c'est démoniaque, votre vie, le terrain que vous êtes, il sera infécond pour les bonnes œuvres que Dieu voulait vous confier. C'est ça le problème, c'est que Dieu veut vous confier des bonnes œuvres à faire, il a préparé à l'avance des œuvres afin que vous les accomplissiez, mais si vous laissez votre terrain en friche, avec toutes sortes de mauvaises semences, rappelez-vous quand Dieu a maudit la terre suite à la chute d'Adam et Ève, eh bien, il a dit qu'elle produira des ronces, des épines. Ben voilà, c'est à nous de débroussailler tout ça. Le monde est fou, il est dirigé par une bande de sans foi ni loi. Moi, je me demande comment ils font pour dormir, ces gens-là. Ils leur font des cachets, à mon avis. Nous, on a à travailler à notre salut. En ces jours vraiment difficiles, nous devons plus que jamais prêtez une attention plus intense à la parole incorruptible de Dieu, plus que jamais. Jésus le dit, ce n'est pas encore la fin. Mais nous nous rapprochons de la fin quand même. Toutes ces horreurs, tous ces crimes, toutes ces menaces nucléaires sont ce que Jésus appelle les douleurs de l'enfantement. C'est ce qu'on vient de lire. Les douleurs de l'enfantement, elles sont rythmées. Moi, je me rappelle la dernière fois que j'ai accouché. Les douleurs de l'enfantement, elles sont rythmées par des contractions. Pour le moment, la création, elle subit les conséquences du péché de l'humanité. Les principes de décomposition s'accélèrent. Les principes de corruption, de futilité secouent le monde. Mais cet état n'est que temporaire, mes frères et sœurs, parce que le jour vient où les enfants de Dieu seront manifestés. Et quand nous serons manifestés, les choses vont changer parce que nous serons manifestés au jour où Jésus reviendra pour régner avec nous. Et là, on verra qui c'est qui va diriger le monde. Ce sera nous, avec Jésus. Mais si on ne se forme pas maintenant, si on est des trouillards maintenant, si on est des pleutres, si on s'alarme comme des petites filles de 12 ans, pardon les petites filles de 12 ans, c'est juste une expression qui dit « Oh là là, j'ai perdu mon peigne, qu'est-ce que je vais te dire ?» Si on s'alarme, alors que Jésus dit « Ne vous alarmez pas », ben on ne sera pas bon à régner. Hein. Et la terre, elle sera délivrée de toute corruption à ce moment-là, et de toute décadence, alors oui, nous voyons des forces croissantes, dévastatrices, même dans la nature, les ouragans, les typhons, les inondations, les sécheresses, les épidémies, des désastres naturels. Il y en a toujours eu, mais on en entend parler maintenant. On en entend parler parce qu'on a des moyens de communication formidables qui n'existaient pas du temps de Jésus, qui n'existaient pas encore au début du 19e siècle, ou même du 20e siècle. Nous voyons aussi les guerres, nous entendons parler de ça, nous voyons l'aveuglement des religieux, nous voyons les famines, nous entendons parler de toutes sortes de maladies nouvelles, c'est effarant. Des tremblements de terre, accompagnés des persécutions, savez-vous que 360 millions de chrétiens sont persécutés à l'heure actuelle dans le monde, c'est-à-dire un chrétien sur sept. Et Jésus nous dit, ce ne sont que les premières douleurs de l'enfantement. Quelque chose va naître, un monde nouveau va naître. Mais avant qu'il naisse, il faut qu'il y ait tout ça. Quand une femme est enceinte, les contractions vont en s'accélérant. Jusqu'au moment où l'enfant vient au monde. Jésus nous dit ça non pas pour nous effrayer, non pas pour nous décourager, mais pour nous rassurer, pour nous dire voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Alors ne vous alarmez pas, ça doit se passer, ça doit arriver, c'est comme ça. C'est pas de sa faute, c'est nous qui... Enfin nous, pas nous, mais je veux dire, c'est le monde pécheur, le monde fou, qui obéit à son prince, le diable, qui fait toutes ces choses et ça doit arriver. Jésus a dit, les scandales, c'est obligatoire. Non pas qu'ils veuillent des scandales, mais le monde est éloigné de Dieu, et évidemment, il y a toutes sortes de scandales. Il dit, les scandales sont inévitables, mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Pensez un petit peu à nos frères et sœurs qui ont passé les diverses guerres, ne serait-ce qu'au siècle passé. Eh bien, je suis certain qu'ils pensaient que Jésus allait revenir tout de suite. Moi, je me rappelle, je me suis converti en 68, il y avait tous ces trucs qui commençaient à bouger d'une façon terrible en Israël. Eh bien, les chrétiens disaient, on finit pas l'année, Jésus va revenir, c'est la fin. Moi, je trouve ça un peu bizarre, hein. Qu'ils disent ça comme ça, je croyais que ça collait pas trop avec les Écritures. Pensez aux gens qui ont vécu les diverses guerres au travers de ce monde. Est-ce que vous savez que depuis 1900 jusqu'à l'an 2000, on n'a pas encore les chiffres pour le reste jusqu'à 2022, mais entre 1900 et l'an 2000, il y a eu 231 millions de personnes qui ont été tuées dans les guerres. 231 millions de personnes tuées dans les guerres. Certainement, eux ou leurs familles ont pensé que la fin était proche. Et nous aussi, nous pensons que la fin est proche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes plus près de la fin aujourd'hui que ceux du siècle passé. Mais cette guerre en Ukraine est-elle le commencement de la fin? Non! Le commencement de la fin, il a commencé au jardin d'Éden. C'est pas avec l'Ukraine que ça a commencé. Le commencement de la fin, ça a commencé, c'était au jardin d'Éden, quand l'humanité s'est détournée de Dieu. La mort est entrée là, dans ce jardin, dans un jardin. Voilà pourquoi j'ai mis une photo d'un jardin. C'est là que l'adversaire est devenu le prince de ce monde. Dieu s'est retiré. Il a dit, vous voulez choisir le diable comme maître? Ben allez-y, vous laisse. Alors les gens disent, ah, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces merdes. Il n'y a plus de Dieu. Dieu ne veut plus s'occuper de tout ça. Il s'occupe des siens, c'est tout. Et il retient le diable quand il veut aller trop loin, c'est tout. Et quelle hécatombe depuis? Quelle hécatombe! Alors, ne vous laissez pas troubler ni alarmer. Ce qui importe, c'est votre fin propre. Parce que chacun va avoir sa propre fin. Et chacun ignore le terme de sa propre existence sur cette terre. Alors, occupez-vous de la fin de votre propre vie. Hâtez-vous d'arracher la masse d'épines et de ronces qui sont dans votre cœur. Faites ça sans ménagement. Faut y aller, faut le faire. Si vous ne le faites pas, il se pourrait que vous n'ayez pas le temps de vous en débarrasser au moment où vous devrez être propre pour partir à la rencontre du Seigneur. Parce que beaucoup, ça fait, il y a beaucoup de gens, ça fait trop longtemps que leur vie est en friche. Il faut plus attendre, il faut se mettre à nettoyer tout ça. Employez l'essentiel de votre temps, de vos efforts à ce nettoyage, mes frères et sœurs. C'est ça qui est important. Vous ne pouvez pas gérer l'Ukraine. Vous ne pouvez pas gérer tout ça. Mais vous pouvez gérer votre propre vie. Sinon, vous risquez de vous laisser aller à être surpris comme des serviteurs incapables pour avoir cédé à vos mauvais désirs, à vos mauvaises pensées, à votre négativisme. C'est ça les serviteurs incapables. C'est ceux qui sont avertis mais qui ne tiennent pas compte des avertissements, qui font comme ils veulent, qui se laissent aller au découragement. Mes frères et sœurs, si vous restez dans cet état, c'est dangereux pour vous. Et si vous voulez, vous pouvez tout corriger. C'est dans votre pouvoir. Vous êtes l'image de Dieu, l'image du Dieu invisible, vous êtes l'image. Hein, ceux qui se prosternent devant des images, ils n'ont rien compris. L'image de Dieu, c'est nous. Ce n'est pas des statues de la Vierge ou des statues de Saint-Antoine de Padoue, de je ne sais quoi. L'image de Dieu, c'est nous. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas d'autre image de Dieu sur la terre que les chrétiens. En fait, l'image de Dieu, c'est l'humain. Mais l'humain qui veut faire acte de piété envers Dieu et qui fait du bien autour de lui dans la création. Parce que maintenant, tout le monde ne porte pas l'image du Dieu vivant. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus que des caricatures de Dieu, qui sont même des incarnations du diable. Ceux qui possèdent la ressemblance avec le Créateur sont ceux qui se laissent renouveler dans leur intelligence par la Bible, par la parole de Dieu. Pas par des songes et des fables. C'est pas que je crois pas aux songes. Mais il n'y a rien qui vaut la parole de Dieu. Les songes peuvent être erronés, les visions peuvent être erronées, tout ce spiritualisme peut être erroné. La Bible, c'est ça qui est une base sûre pour notre vie. Alors, comment rendre hommage à l'image de Dieu qu'est l'homme? Eh bien, aider par la nourriture ceux qui ont faim, aider par donner des boissons à ceux qui ont soif, un vêtement à celui qui est nu, la sollicitude à celui qui est malade, un toit à celui qui est sans domicile, faites des visites à ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les hôpitaux. Moi, je me rappelle d'un frère qui disait « Ah, oh, j'étais allé dans les hôpitaux, ça sent mauvais. » Je ne veux pas vous donner tous les détails, mais je dirais comme Jésus, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent. Voilà. Et souvenez-vous qu'à celui qui fait cela, qui donne, eh bien Dieu lui donne un bon salaire. Celui qui donne rien, il ne reçoit rien. Jésus dit, celui qui donne, il sera versé dans le pan de son vêtement, une bonne mesure serrée et secouée, l'abondance. Vous ne croyez pas à l'évangile de l'abondance? Vous avez bien tort, il y a des faux prédicateurs de l'abondance. Mais le message de l'abondance est bel et bien dans la Bible. Jésus a dit, je veux vous donner la vie et la vie en abondance. Que quand vous vous levez le matin pour aller travailler, vous dites quoi? Je vais gagner ma vie. Parce que si vous ne gagnez pas votre vie, si vous mangez, si vous n'avez pas de quoi manger, comment vous faites? Ben Dieu va pourvoir à tous vos besoins si vous pourvoyez aux besoins des autres. Alors, en fait, c'est selon le même principe qui veut que celui qui n'accepte pas d'agir comme Dieu veut qu'on agisse, ben il sera châtié pour avoir négligé l'image. L'image qu'il est lui-même et l'image de ses frères et sœurs. Certains humains irrégénérés disent « S'il y avait un Dieu, toutes ces horreurs n'existeraient pas. » D'autres disent, si Dieu ne voulait pas que ces horreurs, eh bien, il les ferait disparaître. Mes frères et sœurs, Dieu est vivant. Et le jour où il fera disparaître tout ce mal, ce jour-là est proche. Ouf, et il va venir. Ouf, une clameur de louange va s'élever devant Dieu ce jour-là, mais des cris d'horreur aussi. Tous ceux qui n'auront pas voulu suivre Dieu, ça sera l'horreur pour eux. Parce que comme je vous l'ai dit dernièrement, Jésus va se lever non plus comme un agneau, mais comme un lion. Pour le moment, livrer, c'est-à-dire les personnes mauvaises, les personnes mal inspirées, poussent avec le bon grain, c'est-à-dire avec les enfants de Dieu. Vous connaissez la parabole dans Matthieu chapitre 13. L'un ne va pas sans l'autre, comme le jour ne va pas sans la nuit. Comme le haut ne va pas sans le bas, c'est comme ça. Mais ce n'est pas à nous de dire il faut aller couper livrer et tout. Non, non, non. Laissez Dieu faire. Laissez ses anges faire. Le temps va venir où il va le faire. Le temps de la moisson, le temps de l'accouchement, ça arrive. Ayez du discernement, sachez dans quelle époque nous vivons. Nous ne sommes pas Dieu, lui seul sait ce qui est bien et ce qui est mal. Nous, on sait ce qui est bien et ce qui est mal, point de vue moral, moralement surtout. Mais c'est surtout en ce qui concerne la politique qu'on ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. On peut avoir une idée basée sur l'histoire, mais l'histoire c'est quoi? L'histoire est toujours racontée par les vainqueurs. Alors c'est déjà déformé. C'est quoi la politique? C'est la mise en question des institutions qui existent et leur changement par des actions collectives, délibérées. Et l'histoire de ce monde, elle est racontée par les vainqueurs, par leur imaginaire. Mais l'imaginaire des uns n'est pas l'imaginaire des autres. C'est de nouveau la confusion. Regardez ce qui se passe en religion. C'est pareil. C'est pareil. Les institutions se sclérose, je parle aussi bien de la politique que de la religion, là. Ça se sclérose, ça se dogmatise, et tout ça, ça prend des allures d'absolu. Mais il y a quoi d'absolu dans ce monde? Il n'y a que Dieu qui soit absolu. Nous ne sommes pas rien. Tu passes, tu casses, tu lasses. Un jour, tu es là, le lendemain, tu n'es plus là, pouf, tu es mort. Et puis tous ces empires qui ont existé, et tous ces dictateurs, et tous ces gens influents qui étaient là, acclamés, ils sont où là? Dans la terre, pourris. Mais l'imaginaire des uns n'est pas celui des autres. Les guerres, elles naissent de tout ça, de cette folie. C'est pas notre monde. Ça n'est pas notre monde. Jésus dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. On n'est pas d'ici. Moi, je suis pas d'ici, hein. Pour moi, une des raisons de mon amour pour les Saintes Écritures, c'est de stimuler mon imagination. Et j'aime imaginer ce que seront les nouveaux cieux, la nouvelle terre, ce qu'on aura à y faire, d'après les informations que la Bible nous donne. Les gens de ce monde, ils donnent un sens selon leur source d'interprétation et d'inspiration. Mais un disciple de Jésus, il participe à l'acte créateur du monde futur, et ça c'est très différent, parce qu'il a une ligne de conduite qui est en absolu la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, il le fera. Son bras n'est pas trop court. La parole de Jésus, ne vous alarmez pas, nous donne l'occasion de réfléchir, d'imaginer, de méditer ce que le monde méprise, ce que le monde occulte, ce que le monde oublie ou veut oublier. Laissons aux gens de ce monde leur politique, leur religion, leur obscurantisme, leurs inquisitions. Ils disent que les obscurantistes, c'est nous. Ha, ha, ha. Souvenons-nous, mes frères et sœurs, que nous n'avons pas à nous alarmer. Jésus dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Alors, relevez la tête, relevez les cœurs, soyez courageux, relevez les manches aussi, puis arrachez toutes les mauvaises herbes, les épines et les ronces qui sont dans votre cœur, toutes ces haines, toutes ces jalousies, toutes ces bêtises, ces mesquineries, ces machins de famille, des trucs bêtes qui vous empoisonnent la vie et qui empoisonnent la vie des autres. Enlevez ça de votre cœur et vous serez bénis. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez fortifiés et faites ces choses dans la paix. Amen. Au revoir.